Créateur du site Pronosoft et du logiciel Pronofoot Expert Plus. Passionné par les paris sportifs, il nous donnera son avis aiguisé pour les pronos à venir. Ensuite, on accueille Christophe. Salut Christophe.
Salut.
L'un des testeurs de la team Turf, mais également très spécialisé dans le foot, et il nous donnera son avis également aiguisé. Enfin, Seb, alias Seboleta.
Salut à tous. Côté...
Salut Seb. Il lui est spécialisé dans le tennis, mais pas que, puisqu'il est un grand fervent de football également. Alors, le format du jour, on part environ sur une heure, dans laquelle on va aborder quatre thèmes principaux. On va faire un rapide tour sur le mercato estival hors normes qui vient de s'écouler, puisqu'on a vécu quand même un été extraordinaire à ce niveau. On va bien entendu parler match par match de la grille d'autofoot 12 pactolée à 200 000 euros qui aura lieu ce week-end. On fera un très bref point sur les divers règlements en matière de paris chez les bookmakers qui ont pu susciter quelques étonnements de la part de nos intervenants. Et enfin, auditeurs, on vous laissera la parole en fin d'émission. Voilà, ce que je vous propose, c'est donc de commencer par ce fameux mercato estival hors norme avec les deux meilleurs joueurs mondiaux qui ont changé de club, entre autres, il n'y avait pas eu que ça, et notamment le recrutement stratosphérique du Paris Saint-Germain. Je pense que je vais donner la parole à Seb pour commencer, puisque Seb, entre autres, bon, il aime bien le football, on ne peut pas être parfait, il aime aussi le PSG. Ah, je plaisante. Donc, ce mercato hors norme, est-ce qu'un jour, tu aurais pu imaginer voir Lionel Messi au Paris Saint-Germain?
Alors, je dois avouer que non, comme pas mal de monde. Mais je suis un peu partagé sur le sujet parce que c'est vrai que je fais partie des gens qui ont l'impression qu'on privilégie un petit peu les noms au détriment du sportif. Alors ça fait bizarre quand on dit qu'on recrute Messi, mais moi ce qui me pose un souci, c'est le fait d'avoir déjà Neymar et Mbappé qui font peu de travail défensif. Quand on voit que les dernières années, il y a du Liverpool, du Bayern, l'année dernière encore Chelsea, voire même des City, c'est vraiment des équipes qui sont construites pour avoir des gros blocs qui vont attaquer ensemble, défendre ensemble, où il va y avoir une grosse intensité. Quand je vois Messi qui fait du 6 km par match environ, alors c'est Messi, hein, voilà, je me dis qu'ajouter à Neymar, qui n'est pas le premier à venir récupérer les ballons quand il les perd, voire Mbappé, je demande à voir. Moi, le recrutement dont je suis le plus satisfait, c'est Hakimi. C'est vraiment, ça ouvre des possibilités sur des phases de jeu où le PSG était vraiment, vraiment moyen sur les côtés.
Ça pêchait depuis plusieurs années, effectivement, sur les latéraux.
Oui, ouais, et puis on voit ce que ça apporte. Hein. Ça apporte beaucoup de vitesse dans les couloirs. Bon, il y a Bernat qui va revenir, mais il y a aussi le petit jeune du Sporting qui est arrivé là. Donc, ces recrutements-là me satisfont plus que Messi ou Sergio Ramos.
Voilà. Ok, donc un Seb sceptique. Allez, Christophe, voilà. Christophe ou Nadim, votre avis sur le sujet, donc sur le mercato estival hors norme?
Ouais, moi, je suis un petit peu comme Seb, je suis un peu sceptique par rapport à ce recrutement parce que en Ligue des Champions, on se rend compte que beaucoup d'équipes arrivent au bout grâce à l'équilibre de l'équipe. Et défensivement, le PSG, par rapport à cet équilibre-là et par rapport à Messi, Neymar, Mbappé, on a souvent trouvé pas mal de soucis de remplacement. Et je suis un peu sceptique par rapport à tout ça, par rapport à ce recrutement. Et est-ce que les stars dans le vestiaire vont pouvoir aussi s'accorder? Parce que j'ai l'impression que Neymar a un petit peu, s'est un peu rabattu vers Messi sur ses premiers entraînements, ses premiers matchs amicaux, etc. Enfin, premier match. Et j'ai l'impression que Mbappé pourrait être mis de côté. Alors, est-ce qu'il va le supporter? Ça peut être une question aussi importante pour l'équilibre du vestiaire.
Ok. Un point peut-être, Nadim, sur ce mercato en norme, aussi oui. Dans le sens des joueurs gratuits qui sont arrivés aussi, on peut le signaler aussi.
Oui, bah là-dessus, j'ai mon avis comme beaucoup, en fait, il y a gratuit et gratuit, hein. Faut pas oublier les salaires qui sont payés, la prime à la signature, donc c'est bien beau de dire qu'ils sont arrivés gratuitement, mais derrière, il faut avoir les reins très très solides, ouais, c'est pour ça qu'il n'y a que le PSG qui a pu recruter, évidemment, Messi. Alors, perso, je suis vraiment très content de ce recrutement parce que c'est un coup de projecteur inespéré sur la Ligue 1. On peut même se demander, moi en tant que Lyonnais, si Shaqiri et Boateng ne sont pas venus parce que la Ligue 1 a pris une autre dimension. Et je pense que ça a été un plus et un argument qui a dû aider. Parce qu'un club qui joue l'Europa League comme Lyon attirer de tels joueurs, j'aurais pas cru.
D'accord.
Donc oui, méga coup de projecteur. Et puis bon, après, je dirais que le PSG, bon, c'est bien, mais ça met une sacrée pression, n'empêche, sur l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, si le PSG fait une finale de Ligue des Champions, c'est un minimum avec cet effectif-là. Et s'il la gagne, bon, bah, ça sera quand même un exploit et bravo, mais le minimum, c'est la finale, quoi. C'est un peu comme les Bleus à l'Euro, je dirais, avec l'équipe qui avait été affichée. Si ça ne faisait pas une finale, ben, c'était un flop. Donc voilà, c'est le gros danger, c'est qu'en en fait, ils vont être jugés que sur la Ligue des Champions, puisqu'en Ligue 1, bon, déjà, le championnat est plié au bout de 4 journées, ce qui est, ou 3 journées, c'est assez extraordinaire. Mais bon, on sait que le championnat est plié. Même si l'an dernier, il y a eu un concours de circonstances, les planètes se sont alignées, il y a eu le Covid, un tas de facteurs qui ont fait que Lille a pu être champion, mais ça ne se produira pas tous les ans. Donc cette année, bon, ils vont être champions, pour moi, je pense, avec plus de 100 points. Donc voilà, le challenge sportif, il sera uniquement en LDC et encore à partir des huitièmes, puisque évidemment, normalement, même si la poule, elle n'est pas évidente, voilà, ils vont être attendus qu'en Ligue des Champions au final. Donc ils vont être jugés sur 4-5 matchs aller-retour et puis basta, quoi.
D'accord. Peut-être un mot sur CR7 quand même. On l'a pas cité sur son choix de. Alors est-ce que c'est un vrai choix ou pas? Il y a un moment donné, on a parlé de City, on a parlé ensuite de United. Ça, lui seul le sait, mais en tout cas, il retourne à ses premières amours ou presque.
Ouais, oui. Tout à fait. Ouais, le matin, je crois qu'il était annoncé à City et l'après-midi, il signe à United. C'est ça, assez ouais. Extraordinaire. Bon, après, Ronaldo, il vient de battre un record, n'est-ce pas, Seb?
Le 111e but, là, un petit doublé qui lui permet d'être seul en tête du classement des meilleurs buteurs en sélection.
Alors, pour le coup, je dirais, par rapport à ce record, j'aimerais en parler un tout petit peu, donc c'est assez beau parce qu'au final, il rate un péno. Et au moment où on s'attend le moins, il met deux buts dans le temps additionnel et qui permettent de gagner le match. Ce n'est pas des buts où il les a marqués à 3 ou 4-0, c'était vraiment des buts décisifs. C'est vraiment deux têtes somptueuses. Enfin, il a une condition physique hors norme, ça, on ne peut pas lui enlever.
Après, c'est une machine.
C'est une vraie machine. Après, pour le record en lui-même, moi, je suis plutôt pas sceptique, mais je prends ça de loin parce que tout le monde ne joue pas à armes égales. Parce que là, il y a un joueur qui s'appelle Haaland, qui pour moi devrait faire une carrière au moins au niveau de Ronaldo. Mais malheureusement, ce joueur est norvégien. Donc, il ne va pas avoir les parcours de Ronaldo dans les compétitions avec des phases finales. Il ne va pas avoir autant de matchs. Il ne va pas pouvoir autant briller. Et donc, il ne battra jamais ce record. Pourtant, il y a des joueurs qui en ont les moyens. Malheureusement, il n'a pas la bonne nationalité. Donc, c'est des records qui sont énormément conditionnés par la nationalité du joueur. Donc, ils ne sont pas vraiment équitables. D'ailleurs, le détenant précédent, c'était un Iranien, donc c'est carrément une compétition sur un autre continent avec d'autres règles. Bon, ça nous semblait inaccessible, mais c'est une compétition où les équipes mettent des 10-0 dans les phases de poule. Donc le jeu, il n'est pas vraiment équitable pour tous.
Ok, très bien. Bien, merci à vous trois pour ce point de démarrage de ce Spaces Twitter. On enchaîne comme promis avec la grille d'Autofoot 12, donc Pactolé, qui est une grille, comme vous l'avez pu le constater, 100% internationale. On vous rappelle, la validation, c'est avant 17h55. Alors, on va faire match par match. Les intervenants vont donner leur avis. Et à la fin, bien évidemment, si vous avez des questions ou un avis particulier ou un pronostic particulier sur une des nations, on vous écoutera avec plaisir. Alors, le premier match listé dans cette grille, c'est le match Ukraine-France. Donc, on a bien fait d'attendre aujourd'hui avant de faire ce rendez-vous. Il fallait absolument qu'on sache un petit peu l'état psychologique et l'état de forme de l'équipe de France. Et pour tout vous avouer, comme vous le savez déjà, c'est quand même pas génial. Donc, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Alors, j'ai du fixe, c'est-à-dire que Sébastien, lui, voit une victoire sèche de la France. J'ai Nadine qui voit un triple. Et carrément, j'ai Christophe qui décoche la France et qui voit le 1-N sur l'Ukraine. Donc ça peut être intéressant. Christophe, si tu veux commencer.
Alors oui, je vais peut-être commencer. Donc tu parlais de l'état psychologique. Mais je pense que c'est là où ça va être très important, ce match. Je pense que l'équipe de France n'est pas prête, tout simplement.
Je pense qu'elle n'a pas encore digéré son euro.
Voilà, l'euro a été catastrophique en interne. Hein. Je ne parle même pas du jeu. Hein. Je parle en interne et dans le vestiaire. Et je pense qu'il y a eu un clash avec Didier Deschamps. Et j'ai l'impression que les joueurs ne sont pas actuellement concernés. En plus, bon, il y a 4 points d'avance sur l'Ukraine, donc quelque part, une défaite en Ukraine n'est pas forcément dramatique ce soir, enfin, pour le prochain match. Donc, je ne vois pas du tout une victoire française. Il y a Mbappé est absent, Kanté n'est pas là non plus au milieu de terrain, Tolisso. Voilà, je pense que ça va être très compliqué. En plus, le retour des supporters, etc., je pense que l'ambiance va être assez bouillante. Enfin, je ne sais pas si le stade sera plein, mais voilà, je ne vois pas l'équipe de France.
Ok, on note ça. Pour toi, ça peut être le match qui fait basculer la France dans une vraie crise, en fait.
Ouais, exactement, okay. C'est ça. Ouais.
Ok, très bien. Nadine, toi, tu tripes. Donc, tu crois encore un petit peu à la France, mais
ouais,
pas que.
Évidemment, c'est difficile sur un autofoot de décocher le favori. Et la France est favorite, même si Mbappé n'est pas là. Les atouts offensifs sont très nombreux. Après, l'équipe d'Ukraine, on l'a vu à l'Euro, c'est une équipe techniquement qui a un superbe niveau avec des joueurs qui ont la qualité de finir le très peu d'occasions qu'ils ont, donc Yarmolenko, Yaremchuk. Alors, le tout petit plus en faveur des Bleus, c'est l'absence de Zinchenko, qui a priori est suspendu d'après ce que j'ai vu ce matin. Donc, c'est quand même le joueur de Manchester City. Ça sera un petit handicap pour les Ukrainiens, mais à domicile, il faut énormément se méfier de cette équipe. Et en plus, comme tu l'as dit, Christophe, une défaite serait quasiment sans conséquence dans ce groupe, ce qui est assez exceptionnel.
Ouais. D'accord, ok. Alors, Seb, toi, tu vois la France de façon sèche et ne gâche pas de double, de triple sur ce match.
Ouais, parce que moi, je ne suis pas super d'accord. Je pense que tout autre résultat qu'une victoire, là, mettrait une grosse pression. Déjà qu'il y a pas mal de polémiques en dehors du vestiaire. Je pense que là, c'est à tout prix le match où il faut éviter de se faire remonter. Et le fait que Mbappé soit parti aussi, je pense que devant, Deschamps est un peu contraint de balancer ses petits joyaux comme ça et les laisser combiner ensemble, leur donner beaucoup de liberté. Et je pense que le fait qu'ils doivent faire sans Mbappé, ça va leur donner un petit peu plus de structure à l'équipe dans ce qu'il sait faire avec... Un bloc beaucoup plus compact, voilà, ce qu'on avait revu avant l'Euro de l'équipe de France. Je pense que paradoxalement, le fait qu'il n'y ait pas Mbappé, ça va l'aider à avoir voilà, peut-être juste Benzema devant, trouver plus de vitesse sur les côtés. Je sais pas, il a peut-être changé quelque chose qui fait que ça va aider l'équipe de France à faire autre chose que ce qu'on a vu là contre
la Bosnie.
La Bosnie.
D'accord, très bien. Bon, voilà. Alors, à vous de vous faire votre propre idée après tous ces avis très divers. Mais c'est comme ça qu'on peut se forger une vraie opinion en écoutant les avis des uns des autres. Alors, le second match, il s'agit de la Slovaquie contre la Croatie. Alors, j'ai, pareil, plusieurs pronos. Seb qui voit la Croatie. J'ai Nadim qui voit également la Croatie, donc en sec. À l'extérieur, et Christophe qui, lui, décoche la Croatie encore une fois, très, très spéculateur, Christophe, et qui voit la Slovaquie et qui pose un double 1-1. Alors, je vais te laisser la parole encore une fois, Christophe.
Alors, tout simplement, pour une seule raison, bon, déjà, la Slovaquie est invaincue pour l'instant dans cette phase, mais tout simplement, c'est l'absence, si je ne me trompe pas, de Luka Modric. Voilà, je trouve que la Croatie sans Modric, c'est plus la Croatie. Donc voilà exactement. Donc je laisse le petit nul quand même au cas où parce que ça serait déjà un bon résultat pour les Croates, sachant que les Croates sont pour l'instant devant les Slovaques. Mais je vois pas une victoire de la Croatie, voilà, sans Modric.
Mais ton approche elle est parfaitement louable. Hein. Sur une grille à 12 pactolée à 200 €, c'est aussi comme ça qu'on peut parvenir à aller chercher. D'être l'unique gagnant à 200 000 €, c'est une telle idée. Alors après, mais ça arrive très très souvent. Hein. Alors, Seb et Nadim, vous voyez la Croatie de façon assez facile, on va dire.
Ouais, alors, je ne les ai pas forcément énormément observés, mais bon, juste pour mettre un petit bémol sur ce que tu as dit, Christophe, sur le fait qu'ils sont invaincus dans les qualifs. Certes, ils sont invaincus dans les qualifs, mais entre-temps, il y a eu l'Euro, et ce n'était pas exceptionnel à l'Euro. Ils ont pris une petite tôle 0-5 contre l'Espagne, notamment les Slovaques. Alors que les Croates, pour ma part, bah, justement, ils ont tenu tête à l'Espagne, ils avaient fait un 3-3 un peu fou. Donc, je me suis un peu basé là-dessus et sur le fait que, bon, là, au minimum, il faut un nul pour les Croates parce que le groupe est très, très serré. Donc, à la limite, le nul, j'aurais pu le cocher, mais je penche quand même vers la technicité des Croates par rapport aux Slovaques qui sont très vieillissants. Il y a toujours Hamsik qui est titulaire dans cette équipe. Enfin, à un moment, il faut tourner la page, quoi.
Ouais, moi, c'est un peu le même raisonnement. Je reste sur l'impression qu'ils m'ont fait pendant l'Euro. La Croatie, je les voyais moins bien que ça en fin de cycle, en bout de course. Et j'étais plutôt agréablement surpris. La Slovaquie, ça reste quand même très faible. Et puis sur l'historique, c'est des Croatie-Slovaquie, c'est 5 matchs et 4 victoires croates, 1 nul. Donc, il faut faire des choix dans ce genre de grille aussi. Et voilà, base Croatie pour moi.
D'accord, très bien. Allez, troisième match, Israël-Autriche. Alors, Christophe, triple ce match. Nadim voit le N2 et Sébastien, lui, voit l'Autriche carrément en sec. Donc, on va garder le même ordre, si vous voulez bien. Christophe, je te laisse la parole.
Oui, bah, à la base, j'aurais pris un peu comme Seb avec l'Autriche vainqueur. Mais voilà, c'est un match, je pense, sur un début de saison qui, bah, où tout peut arriver. Et je n'ai pas forcément de grosses infos sur cette équipe d'Israël. Donc, je préfère tripler pour assurer le match, quoi, en fait, tout simplement. Très bien.
Alors, je suis parti sur N2. Donc, les Israéliens, ils viennent de faire une grosse performance, mais c'était face aux îles Féroé. Donc, ce n'est pas vraiment des foudres de guerre. Et l'Autriche, je considère qu'ils sont un peu plus solides. D'ailleurs, ils ont failli éliminer l'Italie. Hein. Ça s'est joué à deux utilisations de la VAR et de quelques centimètres, hein, à l'euro. Donc, je vois quand même l'Autriche favorite. Et un nul ne pourrait ne pas déplaire aux deux équipes qui sont actuellement à la deuxième place et à égalité derrière le Danemark.
Ouais, bah, moi, pareil, l'Autriche, ça m'avait bien plu sur ce que j'ai vu à la fin là, pendant l'Euro. L'Israël, c'est sur leurs 8 derniers matchs à domicile, c'est quand même 6 défaites. L'Autriche, c'est une nation qui se déplace plutôt pas mal avec 5 victoires sur 7 derniers déplacements.
Moi, noter, je trouve. Noter, c'est vrai, c'est
je trouve. Place. Ouais, je trouve qu'il y a plus de talent de toute façon en Autriche. Donc, pareil, faut faire des choix. Base Autriche.
Ok, quatrième match, Écosse-Moldavie. Alors, Sébastien voit l'Écosse, Nadim de son côté voit l'Écosse, on ne va pas avoir de problème, et Christophe de son côté voit l'Écosse.
Non,
c'est la faiblesse de l'adversaire, j'imagine.
Ouais, la Moldavie, c'est la lanterne rouge du groupe, c'est le genre d'équipe contre qui on soigne son goal à virage. Ils ont déjà encaissé 15 buts en 4 matchs, donc normal, si l'Écosse ne bat pas la Moldavie, c'est même pas la peine, quoi.
Moldavie, c'est 18 défaites sur les 22 derniers matchs, quand même. Donc, c'est assez important. Ouais.
Même si, à la surprise générale, le shérif Tiraspol s'est qualifié en Ligue des Champions et c'est un club moldave. C'est quand même à signaler, on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai exploit.
Et Moldave, c'est 13 défaites d'affilée à l'extérieur. Et leur seule victoire, c'était contre. Enfin, depuis 2017, c'est contre San Marin.
Merci la Ligue des Nations, alors.
Donc à vous écouter les gars, c'est un loto foot 11 là. c'est une base sur laquelle on peut miser quoi.
Bah on peut difficilement. En plus l'Écosse, bah, s'ils font une contre-perf, l'Écosse ils sont largués hein, derrière hein, parce qu'ils sont à 5 points devant l'Autriche qui sont à 7 points.
C'est leur dernière chance d'accrocher le wagon de tête, de choper la deuxième place et de la jouer.
D'accord.
Ouais, là faut pas qu'ils laissent passer leur chance.
Bon, alors, on enchaîne alors. On ne passe pas plus de temps là-dessus. On enchaîne avec un match presque similaire, sauf que le favori, cette fois-ci, ne reçoit pas, mais se déplace. C'est Îles Féroé, Danemark, où tous les trois, vous voyez le Danemark s'imposer aux Îles Féroé.
Bah, tu le disais tout à l'heure, les Îles Féroé viennent de prendre 4 buts contre l'Israël, donc je vois très mal quand même le Danemark se faire accrocher.
Et le Danemark reste sur un bon euro également.
Un très bon euro, 16 buts marqués, 0 buts encaissés. Exactement. Dans cette phase éliminatoire.
Et un sans faute complet. Malgré l'absence maintenant d'Eriksen, ça ne semble pas leur poser de problème, au contraire.
Ok, bon allez, on ne s'attarde pas sur ce match. Alors. Bon, donc on sait un loto-foot 10, bon bah ça vient bon. Allez, match numéro 6, République d'Irlande, Azerbaïdjan. Donc tous les trois, vous voyez également la République d'Irlande. Pareil, ça vous semble complètement déséquilibré.
Sur le match, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, là, le doublé de Ronaldo. C'est une bonne impression de l'Irlande, bah, qui galère un peu là depuis qu'ils ont leur sélectionneur, mais très bonne impression. L'Azerbaïdjan, c'est deux matchs à l'extérieur en qualif gagnés dans leur histoire. Ah,
là,
seulement.
C'est 0 points en 3
rencontres. Ouais. Donc l'Irlande à la maison, en plus c'est toujours compliqué d'aller là-bas. Donc les Irlandais pour moi.
Okay. Je suis assez d'accord, en général ouais, l'Azerbaïdjan ils font leurs points à domicile parce que les équipes font des voyages de 5000 km et se déplacent, ça devient un handicap, tout déplacement devient un gros handicap et là c'est à l'autre bout de l'Europe. Donc une petite victoire de l'Irlande, je vois pas un carton, hein, un petit 1-0 et ça sera bon.
Très bien. Okay. L'autofoot 9, allez, on continue. Pays-Bas, Monténégro. Alors là, les avis sont partagés. J'ai Christophe qui voit les Pays-Bas. J'ai Nadine qui voit du 1N. Et Sébastien également du 1N. Christophe, si tu veux commencer.
Ben, pour ma part, j'ai hésité entre la victoire sèche des Hollandais ou le 1N. Donc voilà, bon, j'ai fait, comme je disais ça tout à l'heure, on fait des choix. Et de retour à la maison, je vois mal les Hollandais quand même se faire accrocher contre le Monténégro. Si toutes les stars sont là, Wijnaldum, Depay, Van Dijk, Blind, je pense que les Hollandais devraient passer. Voilà. Et je pense qu'au Philips Stadion, au Philips Stadion, ouais, exactement.
Deuxième et troisième.
Ouais, juste derrière la Turquie, ouais. Et au Philips Stadion, en plus, je pense que l'ambiance va être assez chaude. Voilà.
Ok, très bien. Qui est un petit peu plus mesuré par rapport à ce match.
Bah, pour ma part, j'ai rajouté le nul quand même, parce que déjà, bon, le Monténégro, il s'était mené 2-0 en Turquie. Je me suis dit, ça y est, le match est plié. Et puis, ils sont revenus au score. Donc, c'est une énorme qualité en Turquie quand on connaît les conditions et l'ambiance là-bas qui y règne. Ils ont égalisé à la 97e minute. Et puis, c'est une équipe qui a su se renouveler. Hein. Il y avait Vucinic il y a 5-6 ans qui a pris la retraite. Là, ils ont Jovetic et d'autres. Donc, belle équipe qui va être sérieuse. Et les Pays-Bas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond depuis l'Euro, je trouve. Ils ont un énorme potentiel, mais la mayonnaise ne prend pas.
Ouais, moi je les vois aussi peut-être un petit peu usés. Je ne sais pas, c'est une équipe avec des joueurs qui ont beaucoup joué. Là, ils ont aucun absent. Ils ont leur équipe complète. Mais ouais, comme dit Nadine, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette équipe et on n'est pas à l'abri de se faire accrocher à la maison. Là, ils ont fait 1-1 en Norvège. Il y a quelque chose qui manque dans cette équipe.
Okay.
Donc on va laisser traîner le N.
Ouais, voilà, tu laisses traîner le N. Ok, très bien. Alors, match numéro 8, Biélorussie, Pays de Galles. Alors là, j'ai du triple pour Sébastien. J'ai Pays de Galles en sec pour Nadim. Et j'ai Pays de Galles en sec également pour Christophe. Christophe, si tu veux commencer.
Non, moi je vois le Pays de Galles tout simplement parce que j'ai Gareth Bale est toujours là. Donc et j'ai regardé les matchs du Real Madrid là sur ce début de saison et je l'ai trouvé de mieux en mieux. Donc ouais, en jambes. Bon, il a été buteur et Gareth Bale, c'est un petit peu l'âme de cette équipe. Donc je sens que les Gallois sont capables d'aller gagner là-bas. En plus, c'est sur terrain neutre en Russie. Donc ouais, ça peut être un désavantage pour la Biélorussie. Ouais.
J'ai triplé parce que ça sent quand même. Moi, je trouve ça sent le match piège. C'est délocalisé là à Kazan, en Russie. C'est un match. C'est le genre de match que je peux voir se finir en nul, vraiment moche, avec deux équipes qui vont faire deux déplacements là en quelques jours, pas à côté en plus. Ça peut partir sur une neutralisation des deux équipes.
Alors perso, j'ai quand même décidé de baser, même si c'est vrai que le nul m'a titillé. Mais bon, après, il y a Gareth Bale, il y a Daniel James de Man U, il y a un Kiefer Moore de Cardiff, il y a de sacrés bons joueurs au Pays de Galles. En face, il y a juste Lizakovic, hein, qui est un superbe joueur, mais le reste, c'est du championnat biélorusse et c'est plutôt assez faible. Donc normalement, c'est 3 points pour le Pays de Galles.
Très bien. Ok, match numéro 9. Islande, Macédoine du Nord. Là, je sens qu'il va y avoir à dire un petit peu. Je vois Christophe qui fixe carrément la Macédoine du Nord. J'ai Nadim qui fait du kit au double avec du 1-2. Et j'ai Sébastien qui lui triple le match. Alors la Macédoine du Nord, est-ce que ce n'est pas un peu l'équipe qui nous étonne depuis quelques mois là?
Mais ils ont quand même gagné en Allemagne, quoi, 2-1. Donc voilà, moi je me suis basé là-dessus et j'ai l'impression que l'Islande est un peu en perte de rigueur et d'intensité dans les duels. Donc, bon, en plus, ils viennent de perdre face à la Roumanie 2-0. Donc, pour ça, la Macédoine, je sens que cette équipe est en train de monter en puissance. Voilà.
D'accord, très bien.
Moi, j'ai mis donc 1-2. Je suis un peu comme Christophe. Hein. Je pense que l'Islande, ils ont un peu perdu leur bonne forme. Là, depuis l'Euro 2016, ils n'ont pas réussi à confirmer. Ils nous ont déjà assez surpris comme ça. Et j'ai l'impression que c'est presque une passation de pouvoir avec une autre équipe de ce style qui commence à faire parler d'elle avec ses exploits, donc la Macédoine du Nord. Alors, il faut juste savoir que Goran Pandev a pris sa retraite internationale, on l'a vu au dernier match de l'Euro, donc c'est quand même un atout en moins. Mais malgré tout, ça va être un match ouvert. Les Macédoniens, ils ont peur de personne, comme tu l'as dit, ils ont été battre l'Allemagne, donc c'est un méga exploit.
Une sacrée référence, effectivement.
Ouais, moi c'est un match, j'avoue que je lis difficilement, donc j'ai réservé mon triple sur celui-là. La Macédoine du Nord, c'est sympa, c'est frais. Je me méfie encore parce que la victoire en Allemagne, c'était quand même dans un contexte particulier. Ils m'ont un peu déçu, j'avoue, pendant l'Euro. Je m'attendais à mieux niveau ballon, ça faisait que subir. Et puis les Islandais, c'est vrai qu'ils sont, ils sont vraiment pas dans une grande forme, mais c'est quand même une équipe qui à la maison, enfin, c'est jamais évident d'aller jouer là-bas. On n'est pas à l'abri de voir un nul ou une victoire à la maison sur un péno, ce genre de chance de truc, quoi. Donc c'est vraiment un match difficile à lire, donc triple pour moi.
D'accord, très bien. Ok. Match numéro 10, Belgique. République tchèque. Alors, j'ai Christophe qui double un N, j'ai Nadine qui fixe la Belgique, et j'ai Sébastien qui double un N également. Christophe ?
Moi, j'ai laissé traîner le N, parce que, bon, à la base, la Belgique, pour moi, est grande favorite, hein, y a pas de souci, mais je laisse traîner le N, parce que la Belgique vient de prendre quand même 2 buts en Estonie, bon, enfin, c'est quand même une faible équipe. Défensivement, de Neuer, Boyata, je suis pas fan. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ces joueurs-là derrière. Et les Tchèques nous ont montré, même si apparemment Schick n'est pas là ce soir, mais les Tchèques nous ont montré à l'Euro qu'ils étaient capables de bien défendre et capables de surprendre. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas le N un partout comme à l'aller, quoi, comme match aller.
D'accord. Et la Belgique qui doit aussi digérer aussi, hein, une déception, une nouvelle déception avec un Euro.
En plus, ouais. Voilà un Euro décevant. Ouais. Leur espérance,
hein, tout à fait. Ouais. Moi, un peu le même raisonnement, c'est. Je pense que les Tchèques sont capables d'embêter les Belges. C'est pour ça que je laisse traîner le N. Je pars sur la Belgique favo, hein, normalement, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un match plus équilibré que ce qui paraît, quoi.
Ben, pour ma part, moi, je base sans hésiter. Je vois même une grosse victoire de la Belgique. Je trouve que les Belges, c'est les champions des phases de poule et des éliminatoires. Hein. Ils avaient réussi un sans faute, si je ne m'abuse, pour les qualifs euro. Là, ils sont plutôt pas mal aussi. Et puis, jusqu'au match à élimination directe, ben, ils sont quasiment intraitables. C'est un méga effectif. Lukaku, il a mis un doublé en Estonie. Certes, c'est que l'Estonie, mais ils mettent 5 buts là où, par exemple, les Bleus ne cartonnent personne. Quoi. Donc, c'est des équipes qui peuvent cartonner les équipes plus faibles. Et en face, donc, Patrick Schick, il est suspendu. Il a été suspendu 2 matchs suite à un rouge pris au mois de mars. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Il y a d'autres absents en République tchèque, j'ai vu en défense. Il y a toujours celui qui a proféré des insultes racistes. Bon, bref, pour moi, il n'y aura pas photo. Je tenterai même un petit handicap moins 1, voire moins 2.
Après, il y a eu 1-1 à l'aller sans Schick aussi.
Tout à fait. Voilà. Non, ils ont pas que ce joueur. Ils vont venir fermer les Tchèques, mais ça va aller trop vite.
D'accord, très bien. Match numéro 11, avant-dernier match, Suisse-Italie. Alors là, je pense qu'il va y avoir débat. Il y a du triple pour Christophe, du N-fix pour Nadim et de la victoire de l'Italie pour Sébastien. Donc là, il y a aussi, à mon avis, des avis qui ont dû un petit peu évoluer par rapport à la contre-performance italienne face à la Bulgarie.
Voilà, déjà, moi, ce nul contre la Bulgarie me laisse un petit peu perplexe. Et j'ai l'impression, comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours difficile de digérer un titre de champion d'Europe pour une équipe, une nation qui ne s'y attendait pas à la base. Parce que je ne pense pas qu'ils étaient les grands favoris au départ de l'Euro. Donc, voilà, les Suisses sont aussi capables de tout. Ils nous l'ont montré à l'Euro, surtout contre l'équipe de France. Donc, je pense que voilà, j'assure en mettant un triple, sachant en plus que l'Italie peut se contenter d'un match nul. Bon, ils ont quand même 4 points d'avance sur la Suisse. Donc, même si la Suisse a 2 matchs de retard, hein, mais bon, ils ont quand même 4 points d'avance. Donc, c'est pour ça que je triple pour assurer.
Voilà. Moi, justement, je pense qu'ils n'ont pas tant de marge que ça, les Italiens. Ils ont fait un nul. Ils ont 4 points d'avance et les Suisses ont 2 matchs de retard. Donc. Moi, je pense qu'ils vont vouloir affirmer leur domination dans ce groupe-là. Là, dès soir, c'est le match qu'ils doivent gagner. Et s'ils le gagnent, en tout cas, ils se facilitent grandement le reste des qualifs. Donc, moi, je pars sur l'Italie. Je pense que ça aura servi de leçon cette contre-perf là, contre la Bulgarie hier.
Moi, j'ai tenté le nul fixe. C'est vrai que j'ai hésité à cocher l'Italie, mais je pense qu'ils ne vont pas vraiment se découvrir. Il ne faut pas qu'ils perdent dans ce match-là. Le nul, ça va leur convenir et ils vont se dire qu'au retour, ils vont battre les Suisses. C'est vrai qu'ils ont perdu 2 points qui n'étaient pas prévus contre qui déjà ? Contre la Bulgarie, oui, plutôt faible. Mais bon, ils vont pas se livrer à l'attaque, ils ne vont pas faire cette erreur-là puisque… Ils vont jouer leur football et ils gagnent jamais avec une grosse marge. Donc, soit un petit nul, ils pourraient gagner d'un but, mais je me dis nul fixe, ça se tente.
D'accord, très bien. Allez, 12e et dernier match, c'est un énième Brésil-Argentine.
Tiens,
c'est vrai, j'ai pas regardé la stat, le nombre de fois où ces deux pays se sont rencontrés en compétition. Bon, le Brésil est en tête de son groupe. Alors, Christophe base le Brésil, Nadine triple ce match et Sébastien double 1-1 ce 12e et dernier match. Christophe ?
Moi, c'est l'équilibre de l'équipe de l'Argentine hein, qui me pose toujours défaut, même si je pense qu'elle s'est quand même nettement améliorée ces derniers temps. Mais c'est quand même 6 buts encaissés, 2 contre la Colombie, 1 nul contre le Paraguay. Le Brésil, moi, m'impressionne depuis le début de cette phase, 7 victoires, 7 matchs. Donc voilà, je tente le Brésil. Voilà, l'Argentine, pour moi, défensivement, c'est pas encore une assurance. Voilà.
Ouais, moi je suis parti sur 1-1, donc je vois pas l'Argentine gagner. Parce que surtout, je pense que le Brésil à la maison, après avoir perdu la Copa à la maison, ils voudront laver l'affront. Et c'est pas interdit de penser que ça peut se finir en nul. Hein. C'est une équipe qui sait boucler aussi l'Argentine, mais je les vois mal gagner une nouvelle fois là-bas.
Pour ma part, ouais, j'ai triplé. Alors j'entends effectivement le Brésil va chercher à prendre sa revanche, mais bon, les Argentins, Messi, toutes leurs qualités individuelles, comme le Brésil, le premier qui va marquer, il va prendre une grosse option sur la victoire. Et aussi, c'est un match qui compte, je dirais presque pour du beurre pour le Brésil, puisqu'ils ont déjà assuré la qualif. Donc c'est plutôt l'Argentine qui a besoin de points, et le risque, c'est que le Brésil ne prenne pas ce match tant au sérieux que ça. En plus, je n'ai pas vérifié, mais on doit encore être à huis clos, je pense. Hein, vu
c'est de COVID, nombre limité.
Nombre limité ouais. À 5000, 5000 alors ?
J'ai pas la jauge.
Ouais. Mais... Parce qu'ils avaient fait une exception pour la finale de la Copa, hein, puisque le foot est supérieur au Covid.
Ce sera sûrement pareil. Hein.
Voilà.
Okay, très bien. Bon, merci à vous trois pour vos conseils. Un petit rappel au passage. Vous pouvez sur le site télécharger gratuitement la version d'évaluation du logiciel Pronofoot Expert Plus si vous désirez vous faire la main. Et faire des tests, hein, des simulations. Donc c'est gratuit. Également sur application, donc vous trouverez ça dans le Google Play Store et sur l'App Store. Vous pouvez télécharger l'application Pronofoot AN2 qui vous donnera également la possibilité de mettre des multiples dans vos grilles. D'ailleurs, à ce sujet, ce qui serait intéressant, c'est de demander à Nadim comment il pense aborder cette série avec 12 matchs et plusieurs favoris. Et surtout une grille pactolée à 200K comme ça. Plutôt une directe, plutôt une N-1 ?
Alors, vu qu'on a décidé que c'était un LF10 et pas un LF12, je dirais qu'il faudrait prendre plutôt en direct. Alors, même s'il y a un énorme bémol, on a vu sur la grille de mercredi qui semblait hyper facile. Elle a fait pas de gagnant et 11 000 euros à 11. Et en plus... On peut rajouter que le Portugal a fait un retournement dans les 5 dernières minutes. C'est-à-dire si le Portugal avait fait même que nul contre l'Irlande, ça aurait été peut-être un double PDG. Je n'ai pas testé dans l'estimateur, mais c'était pas loin du double PDG. Donc là, c'est chacun en fonction de son feeling. Il y a quand même du potentiel. Si on veut couvrir un nul, ça peut toujours arriver au foot, on le sait. Après, je voulais juste rajouter quelque chose. Là, on a donné des pronos en 2 triples, 3 doubles. Je ne sais pas si les auditeurs l'ont remarqué. En fait, on va faire évoluer le nombre de triples et doubles au concours, l'autofoot du site, uniquement pour les lotofoot 12, puisque actuellement, on pouvait mettre 3 triples, 3 doubles, que ce soit un lotofoot 14 ou un lotofoot 12. Et vu qu'un lotofoot 12, il y a 2 matchs de moins, on va quand même enlever un triple, parce que des fois, on mettait les triples sans trop savoir pourquoi on les mettait, mais parce qu'il nous est resté un triple à cocher. Voilà, donc je vous informe de petits changements du nombre de doubles et triples. Et également, l'autofoot 8, les 3 doubles, c'est insuffisant. Donc, on a rajouté un 4e double. Donc, vous verrez ça. La modif va être faite ce week-end. Vous aurez droit à cette possibilité à partir de la semaine prochaine.
D'accord. Et comme d'habitude, ils recevront une information à ce sujet, que ce soit par mail ou un topic sur le forum.
Tout à fait.
Parfait. Bien, il ne reste plus qu'à... à faire les jeux et en espérant que vous puissiez bien conseiller nos auditeurs et qu'on retrouve un auditeur unique gagnant à 200 000 euros dans les top tickets en début de semaine prochaine. Ce serait fantastique. Je vais céder la parole à Nadine qui voulait faire un petit point sur le règlement en matière de paris sportifs chez les bookmakers. Parfois, il y a quand même des choses qui sont un petit peu étonnantes et étranges et il voulait faire une petite mise au point.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un coup de gueule sur les règlements et les décisions des bookmakers et l'attitude de l'ANJ, donc l'autorité nationale des jeux. En fait, il y a eu plusieurs choses en ce mois d'août qui vient de passer. Donc, il y a eu le Nice-Marseille qui a été interrompu aux alentours de la 75e minute pour les raisons qu'on sait. Et là, les bookmakers qui ont été contactés par les parieurs, ils ont eu diverses réponses, mais la plupart se sont rabattus sur leur règlement en disant « Notre règlement dit que l'on va suivre la décision des fédérations, donc en l'occurrence ici la Ligue de football professionnel, et qu'ils allaient appliquer la décision de la Ligue. » Donc, par rapport à ça, moi, il y a deux choses qui me choquent complètement. C'est que déjà, en général, dans ces cas-là, les décisions, elles ne sont pas décidées ou appliqué en moins de 2 jours, en moins de 48 heures. Ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec les appels et tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc, on peut attendre la décision, mais elle n'arrivera pas. Et supposons que dans le cas de Nice-Marseille, supposons juste qu'il y ait victoire 3-0 pour Marseille sur tapis vert, parce qu'on estime que c'est la sécurité de Nice qui a failli. Est-ce que les bookmakers vont suivre la Ligue et mettre un 3-0 et payer les joueurs qui ont joué Marseille et le 3-0? Donc c'est vraiment un non-sens ce règlement que de dire on attend la décision des fédérations. Donc je pense que au niveau des règlements, il y a vraiment quelque chose à revoir sur tous ces cas particuliers. Donc je vais y revenir après. Il y a aussi eu d'autres événements comme le Grand Prix de Formule 1, donc qui a été une mascarade de Grand Prix puisqu'il n'a pas eu lieu, mais comme il y a eu 2 tours ou 3 tours derrière la voiture sécurité, ils ont validé le classement des qualifs parce qu'il n'y a eu aucun dépensement pendant la course. Donc ça, c'est aussi une autre anomalie. Et derrière tous ces problèmes qui ont lieu, le truc, c'est que les books sont contactés par les joueurs et chaque bookmaker décide en fonction de ce qu'il veut, quoi, quelque part. Donc il y a des books qui vont payer Nice, d'autres qui vont rembourser tous les paris, d'autres qui vont payer le buteur et rembourser le reste. Enfin, c'est un peu...
Alors, tu veux dire que la décision prise par le bookmaker est une application de leur règlement ou une interprétation de leur règlement?
Alors, il y a toujours des circonstances exceptionnelles, il y a des interprétations. Et en fait, ce qui m'embête profondément, c'est que dans ces cas-là, il y a une autorité qui s'appelle l'ANJ qui devrait dire, sur ce match, voici le résultat qu'on doit homologuer, où on rembourse tous les paris, donc, parce que tout n'est pas coordonné. C'est-à-dire chaque bookmaker peut faire différemment de l'autre, ça va choquer personne. Donc voilà, donc là-dessus, je propose soit que les règlements évoluent pour que tous les matchs qui ne se terminent pas, c'est pas la décision d'une fédé qui va donner le résultat, mais simplement le match ne s'est pas terminé, il est automatiquement annulé. D'ailleurs, on a ça au loto-foot.
Tu milites pour une uniformité des
Tout à fait. Déjà, clarifier les points à risque. Alors en Formule 1, c'est vrai que ça n'arrive pas tout le temps, mais en Formule 1, s'il n'y a pas eu au minimum 30 tours, on ne va pas valider les paris sur les tours, et encore, quoi. Mais qu'au bout de 2 tours ou 3 tours, on valide un vainqueur, c'est un peu n'importe quoi. Donc je pense que les règles des paris sportifs ne sont pas les mêmes règles que celles des fédérations.
D'accord.
Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Et puis il y a eu un autre événement, là, qui est lié à mon sujet de prédilection sur les buteurs et les règlements sur les buteurs. Donc, il y a eu Cristiano Ronaldo qui jouait en Serie A. Des parieurs se sont dit, ben, Ronaldo, meilleur buteur de Serie A, c'est un super coup. On l'a vu, il vient de battre les 111 buts en sélection, le record. Donc, c'est un joueur sur lequel tout le monde parie. Ce Ronaldo a été transféré, malheureusement pour ses parieurs, a été transféré fin août. Et du coup, qu'advient-il des paris effectués sur Ronaldo, meilleur buteur de Serie A? Les règlements aujourd'hui disent, ben, tant pis pour vous, vous avez perdu et n'avez que vos yeux pour pleurer. Donc ça, je trouve que c'est
pas cool.
Comment ?
C'est pas cool du tout.
Ouais, c'est pas du tout cool. Alors, on va dire, on n'a qu'à pas parier avant la fin du mercato, mais il y a aussi le mercato même d'hiver qui peut produire le même genre de mauvaises surprises. Donc là-dessus, sur les buteurs, que ce soit sur les longs termes ou sur les paris sur un seul match, comme l'ai déjà revendiqué sur mon Twitter, il y a un gros problème et il faut que l'ANJ prenne le sujet et puis fasse évoluer tout ça, parce que ce n'est pas possible de se faire entuber, hein, excusez-moi du terme, mais c'est de l'entubage, quoi, celui qui a pris Ronaldo. Alors là, les books, je pense qu'ils ont tous remboursé parce que c'est un top player, comme je l'ai expliqué. Mais si vous arrive la même mésaventure avec un joueur un peu moins connu, je veux dire une connerie, mais vous prenez un Dolberg ou un Andy Dollar, s'ils avaient changé de championnat, vous auriez eu vos yeux pour pleurer.
D'accord, très bien. Bon, c'était une bonne mise au point que tu souhaitais faire. Parfait. Seb, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Auditeur, si vous avez des questions, si vous avez une remarque sur nos pronos, une suggestion à nous faire, un avis à donner, c'est le moment. Vous pouvez vous manifester. Alors, on va attendre quelques secondes.
Alors, on a Carpo. Alors. Qui est avec nous normalement, mais qui a le micro coupé.
Ah, il faut activer ton micro, Carpo.
Bonjour, excusez-moi. Ouais.
Bonjour,
salut.
Carpo.
Salut.
Salut.
Tu viens d'où ? Tu nous appelles d'où ?
Comment ?
Tu viens de où ? Tu nous appelles
d'où ? Ah, je viens de la Sarthe, pas loin du Mans.
D'accord, très bien, on t'écoute.
Donc, j'avais quelques remarques sur l'image du loto-foot. Je pense que c'est une bonne info à transmettre aux auditeurs pour l'Islande. Je ne sais pas si vous avez vu l'info qui a circulé, de Romain Molina, un journaliste qui est une bonne source. Le comité de fédération en Islande, ils ont tous démissionné cette semaine. Je crois le matin même contre la Roumanie ou la veille. Par rapport à des histoires de viols sur mineurs, etc., etc.
Oh là là.
Ouais, parce que par rapport
on n'a pas vu passer ça du tout. D'accord.
Par rapport à Sigurdsson, ils avaient fermé les yeux dessus. Donc du coup, ils ont démissionné. Et je pense que ça fait un peu le bordel en interne là-bas, qui explique peut-être le 2-0 contre la Roumanie hier. Donc je pense que jouer l'Islande sur l'auto-foot de demain, c'est peut-être pas une bonne...
Ou du moins, sans cocher
également bonne chose.
Ça peut être une mauvaise idée.
Ensuite, après, j'ai quelques avis. Quelques avis. Je pense Biélorussie-Pays de Galles peut être un match serré aussi. Je vois nul. Dans ce que vous avez dit, je rejoins certains aussi là-dessus. Suisse-Italie, pareil. Là, surtout que la Suisse a pas joué. Ils ont fait un match amical contre la Grèce. C'est une équipe qui a encore joué là, durant cette trêve, de matchs comptant pour les qualifs. Ils ont reçu chez eux la Grèce en amical. Voilà.
Exact.
Donc, ils ont dû faire tourner. Ils n'ont pas dû jouer à fond contre la Grèce. Ça ne m'étonnerait pas. Donc. Ils n'ont pas fait de déplacement parce qu'ils jouaient chez eux contre la Grèce. Donc, je pense que la Suisse pourrait gêner l'Italie et la victoire n'est pas donnée.
D'accord.
Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
On n'a pas parlé, la Suisse, elle a un super argument hein, maintenant, puisqu'ils ont un Lyonnais dans leur rang, le fameux Shaqiri. Excusez-moi.
Nadim, tu sors, 2 minutes, carton jaune.
Carton jaune.
Ok, bah Carpo, merci à toi pour les infos, notamment sur l'Islande.
De rien, pas de souci.
Bonne continuation.
Ouais, merci.
Merci, vous aussi.
Merci. Sébastien, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre ?
Et non, plus personne.
Alors, on va attendre quelques secondes.
N'hésitez pas.
Profitez-en, manifestez-vous. Si vous avez une question, notamment sur les logiciels, sur l'application, sur... des fonctionnalités des applis ou du logiciel ou un conseil en prono. On va attendre une quinzaine de secondes. S'il n'y a personne. Bon, alors s'il n'y a personne, et bien, écoutez, comme on dit, on va rendre l'antenne. On va vous remercier pour votre attention. On vous souhaite un excellent week-end. Un excellent prono également. Vous retrouverez le prono spéculatif. Il est peut-être fait d'ailleurs, je n'ai pas regardé Nadine. Est-ce que le